Le salut du monde. Journée missionnaire universelle. La moisson est abondante. Matthieu, chapitre 9, verset 37. La journée missionnaire universelle s'insère très naturellement dans le cadre des dernières semaines de l'année liturgique, car elle appuie l'idée caractéristique de la préparation à la parousie, à savoir que notre salut personnel exige une participation active au salut du monde. La messe pour la propagation de la foi, attribuée à cette solennisation, laisse le choix entre deux péricopes pour la lecture de l'épître. On utilise généralement la seconde, tirée de la première lettre à Timothée, dont l'enseignement s'accorde avec celui de l'Évangile pour nous rappeler l'ordre du Seigneur de christianiser le monde ainsi que les moyens de remplir cette obligation. La moisson est abondante. Notre Seigneur prononça cette parole au terme d'une course d'évangélisation à travers les villes et les bourgades de Galilée. Les foules, unanimes à acclamer les guérisons qu'il avait opérées dans le pays, ne se décidaient pas cependant à recevoir son message. Elles n'y étaient pas encore prêtes, ayant été depuis trop longtemps abandonnées par les chefs spirituels d'Israël. Elles lui faisaient l'effet d'un troupeau de brebis gisant à terre, épuisées par une longue marche sur des terrains arides, faute de bergers pour les conduire dans les pâturages. Et le cœur de Jésus en était remué de pitié. Comment instruire ces masses, victimes de l'ignorance religieuse? Devant l'étendue de la tâche à accomplir, le Maître se garde toutefois de conclure « le mal est trop grand, il n'y a rien à faire ». Il y a tout à faire au contraire, et il n'est que temps de se mettre à l'ouvrage. Ces âmes qui dépérissent parce qu'elles ne connaissent point la vérité et qui peut-être ne souffrent même plus de leur disette parce qu'elles en ont perdu conscience. Jésus nous assure qu'elles restent perméables à l'action divine. Si elles étaient éclairées, elles se presseraient pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus voit tous les saints qui pourraient surgir de ces foules égarées ou amorphes. Ce ne sont pas les âmes à convertir qui manquent, ce sont les ouvriers, car la moisson est abondante. Considérons à notre tour l'état présent du monde. À vue humaine, quel lugubre tableau! Près d'un milliard de païens recouvrent la surface du globe. Et si l'on y ajoute les fils de l'islam et les derniers rejetons d'Israël, nous voici devant ce fait brutal que plus de la moitié du genre humain vit dans l'ignorance de la vérité. Ce n'est pas tout, hélas, puisque à cette masse infidèle, nous n'avons à opposer qu'une chrétienté divisée, dont les tronçons séparés de l'Église mère sont en désaccord sur des points doctrinaux essentiels. Parce qu'elle est déchirée, cette chrétienté a perdu la maîtrise des esprits. Elle doit maintenant se dégager sans répit d'une civilisation matérialiste qui prétend justifier scientifiquement son athéisme. Tel nous apparaît l'univers que nous avons reçu le mandat de christianiser. Œuvre surhumaine et bien propre à nous rebuter. Regardons-la de grâce avec les yeux du Sauveur. Pour lui, il persiste à considérer ces zones immenses de paganisme comme les terres futures de son royaume. La moisson est abondante. L'ampleur et la difficulté de notre tâche ne font qu'en souligner l'urgence. Tous ces païens ont le droit de connaître la bonne nouvelle du salut. Lorsqu'il a achevé sa mission visible parmi nous, Jésus charge ses disciples de la continuer. Allez dans le monde entier, instruisez tous les peuples, proclamez l'Évangile à toute la création. Il leur trace leur programme d'évangélisation. Ils seront ses témoins, d'abord à Jérusalem, puis en Judée et en Samarie, enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la ville sainte sera détruite et que ses habitants seront déportés dans tous les pays, alors commencera le temps des païens. Le Seigneur tarde à revenir, explique saint Pierre, afin que tous se convertissent. Nous sommes donc en présence d'un ordre formel du Seigneur. Ce commandement rend irrecevable les reproches adressés aux missionnaires de troubler la bonne foi des populations païennes qui honorent la divinité à leur façon. Ce n'est pas seulement par pitié pour des frères très malheureux que les missionnaires leur portent l'Évangile. Ils accomplissent avant tout un acte d'obéissance. Certes, les cultes religieux les plus rudimentaires valent infiniment mieux que l'irréreligion. Si gauche que soit le geste de la main qui se tend vers son Créateur, il demeure respectable. Bien plus, la gravité avec laquelle, par exemple, les musulmans adorent Dieu pourrait faire rougir quelques catholiques trop peu pénétrés de sa grandeur. Le missionnaire ne va pas jeter le trouble dans les consciences humaines. Il leur présente seulement la lumière. L'objection aurait une réelle valeur si la propagation du christianisme entraînait la nécessité pour les peuples de renier leur civilisation et d'adopter les mœurs des pays européens. Au contraire, les prédicateurs de l'Évangile veillent soigneusement à ne pas heurter les traditions et les habitudes de vie de leurs néophytes en ce qu'elles n'ont pas d'inconciliable avec la vérité chrétienne. Ils ont à résoudre des problèmes d'adaptation fort délicats, mais ils sont les mieux placés pour savoir qu'ils desserviraient la cause de l'Évangile s'ils avaient seulement l'apparence de servir en même temps les intérêts de leur nation d'origine. Les missionnaires ont à cœur de prêcher le message de Jésus-Christ dans sa pureté et avec son caractère d'absolue universalité. Rien ne ressemble moins à une entreprise nationaliste que la prédication chrétienne. Celle-ci a pour unique objet la vraie foi. Reportez-vous au texte de la messe. L'introïde met en relief le double objet de la propagation de la foi, la gloire de Dieu et le salut du genre humain. Tous les peuples doivent glorifier Dieu. Cela suppose qu'ils le connaissent sous son vrai visage, qu'ils soient instruits de ses lois et qu'ils apprennent qui est leur sauveur. Autant de grâces que nous sollicitons dans la collecte. Que toutes les nations connaissent le seul vrai Dieu et son envoyé Jésus-Christ notre Seigneur. Ces thèmes reparaissent dans les autres chants. Ils sont magnifiquement expliqués par saint Paul dans l'Épître « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Sa volonté miséricordieuse ne fera jamais violence au libre arbitre des hommes, elle ne contraint personne. De son côté, du moins, elle n'implique aucune réserve. Dieu, qui veut le salut de tous, accorde à chacun, dans les circonstances particulières où il se trouve, les moyens de venir jusqu'à lui. Cependant, la voie régulière la plus sûre est celle qu'il offre à tous dans son Église. En appelant tous les hommes au salut, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre formule aussitôt dans un de ses raccourcis qui lui sont familiers l'essentiel de la vérité chrétienne. Arrêter l'élan missionnaire sous prétexte que les différentes religions se valent serait une erreur puérile. Il n'y a qu'un Dieu, et qu'il le sache ou non, les hommes ne peuvent avoir accès auprès de lui. Leur néant, leur péché, plus encore, les en sépare. Mais ce fossé infranchissable a été comblé par l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme comme nous. S'il n'appartenait pas à notre race, comment l'aurait-il rapproché de Dieu ? Comment l'aurait-il réconcilié avec Dieu si le Christ n'avait pas possédé la divinité en plénitude ? Il nous a rendu l'amitié de Dieu en se donnant lui-même en rançon pour tous. Ce message dont Paul a été le héros et qui a fait de lui le docteur des païens dans la foi et dans la vérité, Dieu le destine à tous les hommes. N'impose-t-il pas dès lors à ceux qui le connaissent l'impérieux devoir de le communiquer aux autres? Comment, écrivait encore saint Paul, croire que Jésus est l'indispensable sauveur sans en avoir entendu parler? Et comment en entendre parler si personne ne prêche? Et comment prêcher si l'on n'est pas envoyé. Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, verset 14. Le mandat impératif de notre Seigneur fait prompte justice d'une seconde objection qui tendrait à suspendre l'action missionnaire. N'avons-nous pas, insinue-t-on, assez de travail sur place? Commençons par convertir les païens de notre pays. Nous nous occuperons des autres ensuite. Céder à cette suggestion aboutirait à restreindre le champ d'action de l'Église et ce qui ne serait pas moins grave, à la vider à bref délai de sa force conquérante. La moisson est abondante, elle est aux dimensions de la terre. C'est l'univers entier que nous devons conquérir à Jésus-Christ. Si nous perdions de vue la totalité de l'œuvre à accomplir, notre volonté d'évangélisation se ralentirait même à l'égard des païens de chez nous. Ne voit-on pas à l'heure actuelle l'apostolat dans les paroisses s'inspirer des méthodes en usage dans les pays de mission? Les vocations missionnaires, loin de contrarier l'apostolat à l'intérieur de nos pays, le stimulent au contraire. Elles entretiennent et développent chez ceux qui restent un zèle plus ardent et plus courageux. Lorsque, au XXIe siècle, l'Église catholique devait panser les plaies saignantes que lui avaient faites les sécessions protestantes, elle n'hésitait pas à se priver d'un de ses meilleurs ouvriers, François Xavier, pour l'envoyer prêcher l'Évangile dans les Indes. Lorsque, au XVIe siècle, l'Église catholique devait panser les plaies saignantes que lui avaient faites les sécessions protestantes, elle n'hésitait pas à se priver d'un de ses meilleurs ouvriers, François Xavier, pour l'envoyer prêcher l'Évangile dans les Indes. Le travail missionnaire consiste moins à multiplier les conversions individuelles qu'à implanter le christianisme dans tous les pays, à créer partout de petites communautés de chrétiens qui influencent peu à peu les idées et les mœurs de leurs compatriotes. Son but est d'enseigner toutes les nations, de christianiser toutes les civilisations. Quelle leurre ce serait d'attendre que les pays d'Europe soient entièrement revenus au Christ pour le faire connaître sur les autres continents, alors qu'il y a partout des âmes qui l'attendent, près de nous et loin de nous. Il faut répondre aux unes et aux autres. Tout enfant, juste de Bretonnière, qui devait être martyrisé en Corée, avait creusé un trou dans le jardin de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, comme pour atteindre les antipodes. Il y collait l'oreille et se relevant tout ému. « J'entends, disait-il, les Chinois qui m'appellent. » Les premiers fils d'Ignace de Loyola ignoraient encore leur destin quand ils voyageaient en Italie d'hôpital en hôpital. Plusieurs fois, François Xavier se réveilla le matin en disant à Maître l'aîné, son compagnon, « Jésus, je suis moulu. Savez-vous ce que je rêvais ? Je portais sur le dos un Indien, et il était si lourd que je ne pouvais le soulever. » Combien d'autres ont pareillement entendu l'appel des païens depuis que saint Paul modifia brusquement son itinéraire d'évangélisation parce qu'une nuit, il avait vu devant lui un Macédonien qui lui disait « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Actes, chapitre 16, verset 9. De nos jours, bien des âmes perdues dans des régions étrangères à notre foi attendent l'arrivée du missionnaire qui leur parlera de Jésus-Christ. Preuve en soi, l'invraisemblable ferveur des jeunes chrétientés du centre de l'Afrique. On en vient même à se demander si présentement ce n'est pas en terre païenne que l'Évangile manifeste davantage son exubérante vitalité. Le Seigneur n'a pas rétracté sa promesse. Les moissons seront abondantes, mais aujourd'hui, comme en son temps, les ouvriers sont peu nombreux. Le monde entier, assigné par le Sauveur à la conquête spirituelle de ses disciples, hier encore nous impressionnait par sa vaste superficie. Aujourd'hui, elle nous stupéfie par sa petitesse. Les progrès de la technique moderne ont singulièrement abrégé les distances sur notre planète. La traversée que François-Xavier mit plus d'un an à effectuer de Lisbonne à Goa s'accomplit aisément en un mois. Par avion, le voyage dure 48 heures. Désormais, l'Évangile peut être littéralement entendu de toutes les nations. Les émissions radiophoniques relient toutes les régions du globe à notre vieil Occident chrétien. Or, la rapidité des communications, qui théoriquement faciliterait l'évangélisation du monde, accuse plus fortement le petit nombre des ouvriers consacrés à cette tâche. Si la radiophonie favorise la diffusion de la vérité, elle sert aussi de véhicule à l'erreur. Le perfectionnement de la machine a devancé terriblement le progrès moral et spirituel de l'humanité. Aussi, les buts de la journée missionnaire universelle sont-ils d'abord de retenir l'attention de tous les chrétiens sur les problèmes que posent les conditions actuelles de l'apostolat dans les pays infidèles, puis d'obtenir de leur générosité les concours qu'en attendent l'œuvre de la propagation de la foi et les autres œuvres missionnaires. Elle est également destinée à éveiller autant qu'il plaît à Dieu des vocations missionnaires parmi nos jeunesses masculines et féminines. Elle nous rappelle enfin que l'évangélisation du monde est une œuvre surnaturelle qui exige avant toute chose la prière de toute l'Église. Lorsque notre Seigneur faisait observer à ses disciples la disproportion existant entre les possibilités inouïes d'une abondante moisson et le petit nombre des ouvriers, il ne les envoya pas tout de suite au secours des brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a plus pressé que de partir en campagne. « Priez donc le maître de la moisson, leur dit-il, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » En face d'une entreprise qui dépasse les forces humaines, le maître entend que nous commencions par mesurer notre faiblesse afin d'acquérir la conviction que Dieu seul assurera l'efficacité de nos efforts. De nos jours notamment, il est manifeste que le salut du monde est lié à l'unité chrétienne si malheureusement brisée. Les peuples païens n'ont-ils pas quelque excuse à ne pas considérer comme la seule vraie religion un christianisme qui leur est annoncé par des prédicateurs divisés entre eux? Avant de consommer son sacrifice, le Seigneur suppliait son Père de maintenir l'unité la plus étroite au sein de l'Église. « Que tous soient un, demandait-il, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » La vision de nos déchirements futurs bouleverse son cœur et il répète son émouvante prière « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils deviennent parfaitement un, pour que le monde reconnaissent que c'est toi qui m'as envoyé. » De telles paroles sont trop claires pour qu'on se permette d'en atténuer la rigueur. Le Seigneur sait, le Seigneur a affirmé que son Église doit rester une pour que le monde croie en lui. La condition est absolue. Elle nous jette dans la plus affreuse humiliation. Les deux causes de l'apostolat missionnaire et du retour de l'Église à l'unité sont solidaires. Mais au moyen de quel miracle Dieu réunira-t-il en un seul corps son Église démembrée et comment obtiendra-t-on ce miracle autrement que par une prière éperdue et incessante? Priez donc le maître de la moisson, car c'est lui qui envoie les ouvriers qu'il se choisit. Les premiers prédicateurs de l'Évangile parmi les infidèles viennent nécessairement des pays chrétiens. Et c'est l'honneur de la France d'avoir longtemps tenu la tête des nations missionnaires. Cette étape peut être assez longue, elle est provisoire, car les pasteurs des communautés chrétiennes en pays païens ne sauraient être indéfiniment des étrangers. Les peuples de l'Orient tiennent à bon droit à leur civilisation. Il existe chez eux une élite intellectuelle qui a ses exigences et sa légitime dignité. Le christianisme n'aura de crédit auprès des esprits cultivés que s'il leur est enseigné par des hommes de leur langue, de leur éducation et de leur rang. C'est pourquoi les souverains pontifes désirent que les missionnaires préparent des clergés indigènes appelés à plus ou moins brève échéance à les remplacer tout à fait. La formation de prêtres indigènes requiert assurément la présence et le désintéressement des missionnaires, mais elle suppose, au sein des premières générations de convertis, un travail d'approfondissement et de rajeunissement qui est le fruit de la prière. Cela est si vrai qu'à côté des ouvriers apostoliques, nos ordres contemplatifs de l'Occident procèdent en terre païenne à des fondations vouées exclusivement à la prière. Cette prière nécessaire à l'essor de nouvelles communautés chrétiennes, notre Seigneur la demande à tous les enfants de son Église. Elle est la contribution primordiale de tous les chrétiens au salut du monde. Nous ne saurions à ce propos trouver un exemple plus persuasif que celui de Sainte Thérèse de Lisieux. La jeune cloîtrée devenue la patronne des missions, titre qui serait paradoxal si la prière n'était pas effectivement l'arme la plus puissante pour hâter la conversion des païens, « À vous les armes apostoliques », écrivait-elle à un père blanc, « à moi la prière et l'amour ». Mais aussi, quelle prière était la sienne ? Je voudrais parcourir la terre, prêcher votre nom et planter sur le sol infidèle votre croix glorieuse, ô mon bien-aimé. Mais une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans toutes les parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et continuer de l'être jusqu'à la consommation des siècles. De tels accents transportent une âme sur le seul plan du salut du monde. Nous sont-ils inaccessibles? Et ne trouvons-nous pas, dans nos épreuves quotidiennes, la matière d'un sacrifice à offrir pour les missions, comme le faisait encore la sainte Carmélite de Lisieux? Dans les derniers mois de sa maladie, le médecin qui la soignait lui avait ordonné de faire chaque jour une promenade d'un quart d'heure dans le jardin du couvent. Un après-midi, comme elle avait plus de peine que de coutume à marcher, la religieuse qui l'accompagnait lui conseilla de s'asseoir. Thérèse déclina l'invitation. « Je marche pour un missionnaire, » répondit-elle. « Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'entre eux est peut-être épuisé par ses courses apostoliques. Et pour diminuer sa fatigue, j'offre les miennes au bon Dieu. » Que le salut du monde et l'unité de l'Église universelle figurent donc parmi nos intentions de prière habituelles. Jésus nous les indiquait dans le texte qu'il nous a appris. « Que votre règne arrive. » Sachant le prix que notre Sauveur attache au salut d'une âme, notre cœur ne battra-t-il pas à l'unisson du sien au spectacle des multitudes païennes qui ne le connaissent pas? Jésus, qui est la tête du corps, écrivait saint Julien de Tolède, n'estime pas sa joie complète tant qu'il voit qu'il lui manque des membres. Durant cette messe, nous prierons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes, d'envoyer des ouvriers à sa moisson et de les aider à annoncer courageusement sa parole. Et comme nous y invite l'oraison qui prélude au sacrifice, présentons à Dieu la prière de son Fils, afin que son nom soit glorifié parmi les peuples, d'une extrémité à l'autre de la terre. Au jour que nous appelons de tous nos vœux, où la Sainte Hostie sera offerte dans tous les lieux du monde.